1, 2, 3, 4. Crazy Afrobeat.
Radio Django, le grand direct, 18-19h.
Bonsoir et bienvenue pour ce nouveau numéro du Grand Direct de Radio Django, numéro 32 et votre rendez-vous hebdomadaire du mardi soir, bien sûr. 5 sujets au programme ce soir avec nos chroniqueurs Aude, Daniel, Laure, Fabio et Jean-Luc. Bonsoir à vous 5.
Bonsoir.
Alors on va débuter cette émission avec la rubrique Vivre à Lausanne. Aude, et ce soir nous continuons sur notre thème de ce mois de novembre, la question LGBT.
Oui Fabien, et ce soir on parlera particulièrement de la question trans avec notre invité Yannick Fornet.
Un témoignage donc dans quelques instants. À 18h15, nous passerons à la Rose des Vents. Ce sera avec un brin malgache. Une fois n'est pas coutume, Daniel.
Non, nous reviendrons avec Rana Ivo, qui dirige la chorale Zarambi Filana à Gland. Nous ferons un détour par Lausanne, mais aussi par Madagascar, pour parler de ses périodes, de son indépendance et ce qui précédait l'indépendance.
Ouais, un tout grand voyage, comme d'habitude, dans la Rose des Vents. Et puis, deuxième sujet ce soir dans la Rose des Vents, Parle-moi Suisse, deuxième chronique de la Suisse, vue par des Suisses, Laure.
Oui, Fabien, vu le succès de la première chronique le mois passé, je suis repartie à la recherche d'un Suisse qui questionne son identité. Et j'ai trouvé Yann, il s'est gentiment prêté au jeu de l'exploration nationale par les cinq sens.
Voilà, ce sera tout à l'heure aux environs de 18h20. À 7h20, cette fois-ci, on passera à cultiver Lausanne avec l'agenda de la semaine. Fabio, qu'est-ce qui a retenu ton attention ?
Quelques événements un peu très terre à terre. Ça va être un agenda un petit peu cochon. Oh. Mais on parlera aussi de cinéma et de musique.
Ouais. Et puis cinéma, on va prolonger la discussion avec toi, Jean-Luc. Il sera question du ciné Masala.
Oui. Alors on va parler cinéma, particulièrement de films indiens ou dédiés à l'Inde. Et nous recevrons Noémie Vernon pour nous présenter l'événement Cinéma Salab, se déroulera du 11 au 14 novembre.
Voilà, rendez-vous et renseignements, ce sera tout à l'heure, juste avant 19h. La transidentité et tout ce qui tourne autour du mot trans, un détour par le Madagascar, Parle-moi Suisse, l'agenda de Fabio et le Cinéma Salab, c'est le menu de ce mardi 10 novembre sur Radio Django, édition à écouter sur radio.django.fm. Je suis Fabien et je vous accompagne jusqu'à 19h, soyez les bienvenus.
Radio Django, vivre à Lausanne.
Et pour notre deuxième volet LGBT, ce soir dans Vivre à Lausanne, nous parlons, Aude, de la transidentité.
En effet, Fabien, alors dans le terme LGBT, le T signifie trans et se rapporte à toute personne qui ne s'identifie pas au sexe qui lui a été attribué à la naissance.
Effectivement, c'est une grande question et pour en parler, nous recevons ce soir Yannick Fornet. Bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue à toi sur les ondes de Radio Django.
Merci.
Alors, tu fais partie de la permanence trans du Checkpoint à Lausanne et tu as été si je reprends ma phrase dans le bon ordre, je crois qu'on va surtout reprendre les idées. Aujourd'hui donc tu es considéré comme un homme, mais à ta naissance c'était pas le cas. Tu étais considéré comme une femme. Alors dans une culture
comme un bébé déjà à la base, mais
effectivement on commence souvent par bébé. Alors on imagine que dans la culture où l'on est généralement catégorisé homme ou femme, ça ne doit pas être tout à fait facile à mettre des mots sur ce qu'on ressent. Alors vers quel âge est-ce que tu te souviens avoir réalisé qu'il y avait un écart entre l'identité attribuée à ta naissance et puis le ressenti personnel?
Alors c'est un petit peu délicat parce que comme tu le disais très bien, les mots, souvent trouver les mots pour le dire, en fait c'est souvent ça qui est compliqué. Je dirais que cette sensation là elle est, en tout cas pour moi, elle est présente depuis un peu toujours, ce décalage. Après, de là réussir à dire est-ce que non, je ne suis pas une femme, je suis un garçon, ou l'inverse, ou je sais pas quoi, c'est déjà plus compliqué. Par contre, cette sensation là je dirais qu'elle a vraiment été présente depuis mes premières années, depuis 4-5 ans, où le genre commence à avoir une forme d'importance dans les relations sociales.
Est-ce que tu as pu en parler avec ton entourage? Est-ce que tu as été écouté, compris à ce sujet?
Alors, j'ai pu en parler, mais beaucoup plus tard. Alors, c'est pas que je ne pouvais pas en parler concrètement, c'est plus que je n'avais pas les mots et que, honnêtement, j'ai pas forcément ressenti le besoin d'en parler avant. Parce que j'ai pu aussi vivre ma personnalité. On va dire j'étais ce qu'on appelle un garçon manqué à l'époque. Et au-delà, enfin en tout cas au niveau de ma famille, de mes amis proches, ça n'a jamais posé problème. Donc je pense aussi pour ça que j'ai pas eu le besoin d'en parler si tôt. Voilà.
À quel moment de ta vie t'as pu te dire ça y est, je suis un homme et puis vivre finalement pleinement comme tel?
Alors, je pense que cette phrase, je me la dirai jamais, parce que je pense que je vivrai jamais mon genre complètement dans une case ou dans une autre. Après, ça, c'est très, très personnel. C'est à chacun de trouver le genre, justement, dans lequel il est bien. Après, je dirais qu'il y a eu vraiment un moment donné où j'ai senti que je me sentais bien, que j'avais fait le bon choix, que je ne m'étais pas complètement planté de chemin. C'est quelques temps après les hormones, après les premières prises d'hormones, quand typiquement ma voix a commencé à baisser, que dans la rue on me disait plutôt monsieur ou comme ça, il y a eu vraiment un sentiment de ah ok, là je suis sur le bon chemin, je suis vers quelque chose qui me correspond.
Et à un certain moment, j'imagine que, comme tu en parlais, qu'on souhaite effectuer quelques transformations physiques. Hein. Alors, comment est-ce que, plus concrètement, ça se passe? Est-ce que, dans ce cas-là, on va voir un médecin? On peut nous prescrire des médicaments ou des hormones, comme tu disais?
Alors, effectivement, je vais faire assez court.
C'est compliqué. Hein.
Ouais, c'est assez compliqué. Donc, je vais faire un peu le chemin basique d'une personne trans, tout en sachant que ce chemin peut être très varié selon les parcours personnels et les besoins. Mais en gros, la première étape, ça va être de commencer par aller voir un psychologue ou psychiatre. Ensuite, après 3 mois de ce suivi-là, on peut avoir accès aux hormones si le psy pense que c'est quelque chose qui a du sens et tout, et que nous aussi on en a l'envie bien sûr. Et ensuite on va pouvoir avoir accès aux éventuelles chirurgies qui vont être les chirurgies du haut comme on appelle, c'est-à-dire soit créer un torse masculin, soit créer un torse féminin, et les chirurgies du bas qui vont être la création d'un appareil génital masculin ou féminin.
Tu as commencé à quel âge la prise d'hormones? Ou bien alors, déjà peut-être commençons par le début, à quel âge tu as pu aller voir un psychologue, un psychiatre?
Alors moi j'ai commencé assez tard, moi j'ai commencé il y a une année et demie, à savoir que j'ai 29 ans maintenant, même si je ne l'ai fait pas, je sais. À la radio on ne voit pas, mais... donc voilà, moi j'ai commencé, comme on dirait, assez tard, même si pour moi c'était le moment où j'avais besoin de commencer. Mmh. Après, voilà, de nouveau c'est très varié.
Donc il y a une année et demie, c'était la prise des hormones ou d'abord?
La première prise d'hormones c'était une année et demie, et j'avais un suivi psy de 4 mois derrière ça.
D'accord, c'est relativement rapide.
C'est relativement rapide, j'étais assez au clair. Comme je dis, j'ai 29 ans, donc j'ai eu le temps de me poser les questions. Donc quand j'ai pu y aller, c'était...
Et puis depuis la prise des hormones, alors j'imagine que les changements vont assez vite.
Alors, c'est rapide et pas rapide. C'est rapide dans le sens où, surtout quand on commence à un certain âge, on a eu le temps de s'habituer à son corps tel qu'il était. Donc, c'est vrai que moi, j'ai vu des changements après environ 4-5 mois. Il y a eu des changements assez concrets, surtout la voix. Quelques changements au niveau de la morphologie, au niveau des muscles. Mais je dirais quand même que dans l'ensemble, c'est des changements qui vont assez lentement et qu'on a le temps de s'habituer aussi. On a le temps de prendre la mesure des choses.
Alors, j'aurais peut-être envie de poser une question bête, finalement, on peut se poser. Hein. Donc, on l'a dit, tu es née femme,
ouais.
Tu as eu la puberté, tu devais avoir des règles, j'imagine.
Ouais.
Qu'est-ce que ça fait du jour au lendemain de ne plus les avoir et de se dire, maintenant, voilà, j'ai plutôt de la testostérone, j'ai la voix qui baisse, j'aurai plus mes règles, j'ai plus mes règles?
Alors, pour moi, ce que ça a fait, c'était un immense soulagement. Je pense que certaines femmes peuvent le comprendre. après, c'est vrai que qui dit plus de règles dit stérilité aussi. Alors pour moi personnellement ça n'était aucun souci parce que j'avais pas ce désir là en moi. Après c'est vrai que ça peut être une question qui se pose pour certaines personnes, mais c'est vrai qu'il y a eu quelque chose de, comme je le disais au début, j'ai vraiment eu cette sensation de faire le bon choix. Donc quand les changements sont arrivés, vraiment une forme d'acceptation et de bien-être en fait avec ces changements là
Et puis pour les chirurgies supérieures, comme tu disais tout à l'heure, c'est quelque chose que tu envisages, que tu as peut-être déjà fait que...
Alors c'est quelque chose qui est prévu pour le 14 décembre prochain.
Ah oui, c'est tout bientôt. Voilà.
Tout bientôt, ouais. Là, je commence à stresser.
Et puis alors, au niveau juridique, aujourd'hui, est-ce que c'est possible en Suisse de changer de sexe sur ses papiers d'identité? Comment ça se passe?
Alors en Suisse, on peut actuellement changer de prénom et de sexe. Au niveau des papiers d'identité et tout ce qui est administratif en fait en Suisse, c'est possible. Après, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est en fait ce qui est compliqué, c'est que c'est cantonal. Chaque canton a des attentes différentes et des demandes différentes. Seul truc à savoir que dans certains cantons, c'est relativement simple, si je peux dire comme ça. Typiquement, le canton de Vaud est un canton, on va dire, plutôt trans-friendly sur ce côté-là. Alors que, par exemple, Genève est un canton où c'est déjà beaucoup plus compliqué.
Mais alors, c'est une reconnaissance qui se fait au niveau fédéral. Donc,
exactement.
Si d'un coup, tu déménages en Valais, je ne sais pas le statut du Valais, mais si c'est accepté dans le canton de Vaud, en Valais ou à Saint-Gall, c'est accepté aussi.
Ça sera accepté partout et... n'importe où, je serai considéré comme un homme avec un prénom, avec le prénom que j'ai choisi.
Et également partout dans le monde.
Exactement.
Et puis, alors, comment c'est d'être une personne transidentitaire en 2015 à Lausanne, puisque c'est dans cette région que tu vis? Est-ce que dans ta vie de tous les jours, tu te sens parfois discriminée ou incompris?
Alors, personnellement, j'ai pas eu beaucoup à vivre de discrimination. C'est vrai que j'évoluais déjà avant ça dans un milieu très LGBT, justement, très communautaire au niveau de cette communauté. Déjà bien intégré, j'ai une famille très, très ouverte sur la chose, des amis pareils. Donc, j'ai pas eu cette sensation-là. Après, je peux l'entendre de par mon travail, j'entends que c'est pas sain. Moi, je pense pas que mon expérience est la plus représentative. Après, très personnellement, c'est pas toujours simple aussi. Il y a cette différence qui est là et qui restera toujours là, et on l'a en soi, on sait qu'elle est là. Et je dirais c'est ça pour moi avec quoi je dois vivre tous les jours, quoi.
Est-ce que tu as le sentiment qu'il existe assez de prise en charge finalement pour les personnes qui sont concernées par la transidentité ?
Alors non. Oui et non. Ça dépend qu'est-ce qu'on entend par prise en charge. Je dirais que c'est vrai que maintenant qu'il y a cette permanence qui existe là depuis quelques années déjà, c'est déjà un grand pas en avant. Après, c'est vrai que l'idéal, ce serait qu'il y en ait plus dans plus de cantons, parce que moi, je rayonne sur toute la Suisse romande, sauf Genève, où il y a une autre association qui fait ça. Donc, c'est vrai que j'ai des gens qui viennent du fin fond du Valais me voir, et je pense qu'on pourrait...
Tu nous disais en préparant cette émission que tu circules également dans les classes pour leur parler de la transidentité, entre autres.
Exactement, ouais, je fais soit de l'accompagnement pour d'éventuelles personnes qui décident d'assumer leur transidentité dans leur milieu scolaire, ou alors je fais de la sensibilisation dans des établissements.
Et puis alors, de l'accompagnement de personnes qui en sentent le besoin, j'imagine t'en vois de tout âge.
Oui.
Est-ce que ça commence de plus en plus jeune, peut-être, comme tout a tendance actuellement à aller plus jeune? Les premières relations sexuelles ont tendance à être avant 18 ans, avant 16 ans même pour certaines personnes. Est-ce que cette envie d'appartenance identitaire change? Est-ce que ça se rajeunit?
Alors, j'ai pas non plus une expérience de 20 ans derrière moi pour pouvoir faire avoir une réponse très, très concrète, mais je dirais que ce que je peux voir, c'est que... effectivement, les gens sont assez jeunes. J'ai des personnes plutôt âgées, mais j'ai pas mal de jeunes. Moi, je verrais surtout que c'est on en parle plus, mm-hmm. et donc c'est les gens savent plus vers où s'orienter plus rapidement. Je dirais surtout ça, en fait.
Et pour une fois, la loi et le cadre juridique évolue avec cette cause, hein, puisqu'on disait que finalement en une année et demie, hein, pour ton cas, ça va vite. Pour faire des prises d'hormones, est-ce que c'est finalement une satisfaction quand même de se rendre compte que la communauté suit?
Alors, c'est un point de vue. Personnellement, je trouve que la loi n'évolue pas assez vite. Enfin, ce qu'il faut bien se dire, c'est que là, moi, je parlais du canton de Vaud. Il y a pas mal d'endroits où c'est plus compliqué. Le gros problème qu'on a au jour d'aujourd'hui au niveau de la loi, par rapport à toutes ces questions de la transidentité, c'est que c'est flou. C'est-à-dire que d'un canton à l'autre, on va avoir des directives différentes, et on peut avoir des grosses injustices, si on peut appeler ça comme ça, d'une personne à l'autre. Pour des personnes, ça va se dérouler très rapidement et très simplement. Pour d'autres, ça va prendre 2-3 ans avant de pouvoir avoir accès à certains traitements ou autres.
Alors, dans ton cas, ça allait relativement vite ?
Je dirais que c'était relativement vite. J'ai même personnellement décidé d'aller un peu plus lentement que typiquement, je n'ai pas encore fait mes changements officiels au niveau état civil et tout ça. Mais c'est un choix.
Alors justement, état civil, c'est intéressant. Donc, comme tu deviens homme, tu pourrais officiellement te marier avec une femme.
Exactement. Je pourrais me marier avec ma copine. Voilà. Ah ouais.
Comme quoi, ça suit quand même. C'est beau, hein, de voir que ça suit et qu'on puisse changer comme ça quand on ne se sent pas... dans son corps avec la bonne identité.
Voilà.
Et puis, voilà, Aude, dernier point peut-être qu'on souhaitait aborder ce soir.
Oui, ben, quelques questions pratiques peut-être, hein, puisque tu le disais, tu assures une permanence au Checkpoint Vaud à Lausanne. Alors, ben, bêtement, comment est-ce qu'on procède si on veut pouvoir en profiter ?
Alors, le plus simple, c'est de me contacter soit par mail, soit par téléphone. Vous retrouvez toutes les infos, toutes mes coordonnées sur le site qui vous sera donné à la fin. Et puis, le plus simple, bah, effectivement, c'est simplement de m'écrire en m'exposant très rapidement qu'est-ce qui vous amène. Même moi, j'ai pas forcément besoin de beaucoup d'infos. Tout le monde est le bienvenu. Je dis, c'est pas que pour les personnes trans, c'est aussi pour les personnes en questionnement. Il n'y a pas besoin de se dire « je suis trans pour venir ». Même si c'est simplement une question que vous avez et puis que vous avez juste besoin d'éclaircissement, de pouvoir en parler à quelqu'un. Et puis le deuxième truc important, c'est que ces rendez-vous sont gratuits, anonymes et confidentiels. Donc vraiment n'importe qui peut venir.
Effectivement, ça mérite d'être souligné. Et puis encore une autre adresse, hein, Aude.
Oui, parce que tu nous parlais d'une association, alors je te laisse expliquer qui chapeaute tout ça.
Voilà, alors en fait, il y a le Checkpoint, c'est l'endroit où j'ai mon bureau. Et en parallèle, je travaille aussi avec la fondation Agnodis, qui est la fondation romande pour les personnes trans. Donc voilà, vous pouvez me retrouver sous ces deux chapeaux, donc soit le Checkpoint, soit la fondation Agnodis. Je travaille pour les deux.
Donc au final, toujours une même personne pour parler de ces causes, que ce soit par le biais du Checkpoint ou de Agnodis.
Exactement.
Et puis, un dernier petit mot, est-ce que si vous aviez 20 secondes pour donner un message que vous avez envie de transmettre au nom de la communauté trans ?
Ben, continuons à travailler pour faire aller de l'avant la cause et puis toutes les personnes qui sont encore dans l'ombre, qui se questionnent encore, ben, sachez qu'il y a un endroit où vous pouvez venir parler. Et puis voilà.
Et il y a du soutien.
Voilà, il y a du soutien et bonne chance à tous et à toutes.
Eh bien, merci beaucoup sur
merci
ces belles paroles. Yannick Fornet, voilà, je retrouve ton nom, j'ai un petit peu de peine. Voilà, Yannick Fornet, merci infiniment de nous avoir parlé, donc répondu déjà à nos questions sur cette question transidentitaire et trans plus globalement. Et puis, merci beaucoup de nous avoir partagé ton témoignage, puisqu'on rappelle que tu es née en tant que fille et que
exactement.
Tu es devenue aujourd'hui homme. Et on confirme toute l'équipe ici dans le studio qu'on a bien un jeune homme ici en face de nous. Et puis on rappelle que tu travailles donc pour le Checkpoint Vaud qui se trouve à Lausanne et puis pour la fondation romande pour les personnes trans qui s'appelle Agnodis. On vous a mis les deux liens, donc mycheckpoint.ch et puis agnodis.ch. On vous a mis ça sur notre site django.fm et on vous a également créé dessus un petit dossier avec tout ce qui concerne cette thématique qui nous occupe ce mois de novembre, la thématique LGBT. Merci beaucoup Yannick Fornet.
Merci à vous.
Et merci à Aude pour la préparation de ce sujet. Vous dire encore que la semaine prochaine, nous aborderons avec nos invités la question de la bisexualité. Et voilà, tous les sujets sont à suivre et à retrouver sur notre page django.fm.
Won't end. So you better get ready to rock, my friend. You see, we got some news
that you can use, an offer that you can't refuse.
We're giving up, honey, and you got to come because you're the one.
Red, yellow, black, white or brown, in our own way, or we can all get down.
So just take your time
and enjoy yourself,
and you'll rock as good as anyone else.
Now come on, go do it, put your body in too. If the feeling is good, you might as well do it.
Sing it, makes no sense.
I just standing around,
I just boogie to the beat of the funk.
The best, and I'm ready to rock at your request. Go on, go on with your best.
So Rahim's gonna do the rest. Say my name is Rahim, I'm the son of a queen, I'm the king of my castle, don't give me no hassle. Young ladies in the place, put me on. When I'm a part of your life, you can never go wrong. Say at first my name was Danny, and then the secret weapon, the master plan. I'm slick, I'm cool, I'm solid gold. They call me Blood Kid Creole. I'm the C-O-W-B-O-Y. Why the man so bad that you can't deny? And when you ask the cowboy to play, I'm cowboy, I never ran away. And Grandmaster, cuts faster than any known stone to the bone. Full grown, he's a one of a kind, and Flash is gonna rock your mind.
Freedom.
La rose des vents.
Voilà, à l'instant, c'est une musique de Freedom. Et on passe à la rose des vents et on retrouve Laure par Skype. Bonsoir, tu es de retour avec ta chronique Parle-moi Suisse. Tu me glissais tout à l'heure que c'était pas forcément toujours facile de trouver des candidats 100% helvétiques.
Eh bien, effectivement, j'ai réalisé que... Et ça, c'était un peu à ma grande surprise, qu'en demandant autour de moi si un tel voulait participer à la chronique, des gens que j'imaginais quand même très très suisses, bah, la plupart m'ont répondu « Non, bah, désolé, Laure, moi je suis à moitié français, à moitié anglais, à moitié malgache ou que sais-je. » Alors du coup, un peu désemparée, je profite d'être à l'antenne pour lancer un appel aux auditeurs de Django.
Ah bah oui.
S'ils sont 100% suisses et s'ils aiment la chronique, eh ben, qu'ils n'hésitent pas à nous contacter participer.
Alors effectivement, heureusement, tu as trouvé Yann, un très bon invité. Alors, comme le mois passé, tu l'as appelé à s'interroger sur son identité, on recommence cette semaine à travers ses cinq sens, c'est bien ça ?
Le concept reste exactement le même. Aujourd'hui, c'est effectivement Yann qui nous fait visiter sa Suisse, le pays de Ferdinand Adler, des lacs et des trains ultra propres. On commence par la vue.
L'image vraiment qui me vient en premier de la Suisse, c'est l'image en sortant du train, en arrivant dans le Lavaux, le lac, les montagnes, cette couleur hyper vive. Pour moi, l'image de la Suisse est très bien représentée par Adler, par exemple.
La nature comme révélateur d'une unité à retrouver, la nature comme une intuition de la sérénité. Au fil des ans, Ferdinand Adler va oser toujours davantage les couleurs et les lumières. Il va épurer son propos en éliminant progressivement toute référence à la présence de l'homme jusqu'à atteindre une dimension d'ordre mystique.
C'est vraiment des couleurs très naturelles, des couleurs assez pâles, très pures en fait. C'est une image de pureté qui me vient. Parfois même trop pure, trop lisse peut-être, parfois.
C'est difficile de s'imaginer le toucher suisse, mais... Une sensation suisse, ce serait laquelle ?
Au niveau du toucher, moi je dirais la Suisse est très douce dans tous les sens du terme. Donc c'est très, justement pour revenir au lisse de tout à l'heure, il y a ce côté très souple, très doux, en même temps un peu dans une bulle, un peu en dehors des réalités.
Il y a un moment où tu sens cette douceur, toi ?
Je la sens, oui, je la... très souvent quand je reviens de l'étranger en Suisse, je retrouve justement ce côté hyper paisible, hyper... Dès qu'on rentre dans le train, par exemple, on se retrouve dans quelque chose de tout de suite beaucoup plus confortable, plus silencieux, tout un peu plus épuré. Il y a des choses qui reflètent pourtant la réalité du monde d'aujourd'hui qu'on ne voit pas vraiment chez nous. On a un peu ce côté... où la Suisse s'est construite sur un mythe et la Suisse n'existe pas.
Le pacte de 1291, même ça, vous le remettez en question d'ailleurs dans votre livre, ce pacte de 1291.
C'est un document dont la plupart des historiens aujourd'hui reconnaissent que c'est un faux.
Et on retrouve un peu ce côté-là encore aujourd'hui, où nous-mêmes parfois on est dans cette bulle surprotégée.
Alors peut-être qu'on peut rester dans la bulle ou sortir de la bulle pour évoquer une odeur suisse.
Moi, l'odeur suisse, c'est beaucoup l'odeur du lac. Quand j'étais petit, j'allais beaucoup l'été au bord du lac Léman avec mes parents. C'est une odeur qu'on retrouve à Zurich, à Neuchâtel, à Lausanne, à Genève, à Vevey, et qui se mêle à l'image dont je parlais au début, des tableaux de Hodler avec ses couleurs pâles, les cygnes, les canards, le côté un peu... c'est ce côté lisse encore. Pour revenir aussi à ce côté... Par exemple, quand je vais à Paris, je trouve que chaque quartier a une odeur. Mais en Suisse, on ne retrouve pas du tout ça. Il n'y a pas une odeur particulière pour chaque quartier. On a un peu ce côté, justement. On ressent moins les différences. Et à Lausanne, justement, même au niveau de l'odeur, il y a une neutralité assez importante.
Une musique, un son suisse, un discours, une voix suisse.
Pour moi, les voix suisses, les voix qu'on entend dans les médias suisses, elles sont très marquées.
Personnellement, j'en ai un intérêt de bien comprendre ce qui se développe dans ce pays, soit à Prangin, soit à Genève, Geneva Biotech Center, soit maintenant à Colombey, ou soit à Crissier, ou soit n'importe où.
C'est peut-être le suisse-allemand qui va avec ça, parce que quand on entend des politiciens dans les médias en Suisse, c'est souvent des Suisses allemands. Mais après, un son suisse, pour moi, c'est aussi beaucoup la voix dans les trains qu'on retrouve partout. Le mélange des trois langues.
Un goût suisse.
Je sais pas si c'est spécifiquement suisse, mais les petits fruits sauvages...
Qu'on cueille dans la nature
en se baladant. C'est plus des souvenirs d'enfance, c'est plus personnel, mais du coup, oui. Les myrtilles, ou des herbes, ou ce genre de choses, reflètent un petit peu ce climat de confiance en Suisse.
Et on remercie Laure pour ce nouveau numéro de Parle-moi Suisse. On se retrouve d'ailleurs à la rentrée 2016 pour de nouvelles interrogations, pour le moins sensuelles. La Rose des Vents, deuxième part ce soir, avec l'histoire du Madagascar, des origines de son peuple, à l'indépendance. Alors Daniel, de quelle période allez-vous nous parler plutôt ce soir ?
Nous nous intéresserons surtout à ce qui fait l'histoire de Madagascar avant son indépendance. Carrefour entre l'Asie et l'Afrique, l'île a connu plusieurs vagues de migration successives à l'origine de sa diversité culturelle. C'est pourquoi il me paraît incontournable de s'arrêter en premier lieu sur l'histoire du peuplement de Madagascar. Des origines à nos jours, l'unité culturelle est ce qui fait le ciment du peuple malgache.
Alors, avec un tel brassage de population, Madagascar est-elle toujours restée unie ?
Au plan culturel, oui. Malgré plusieurs événements historiques qui auraient pu les diviser, les Malgaches n'ont jamais remis en cause l'existence d'une unité culturelle fondamentale transmise par leurs ancêtres. Cette unité caractérise d'ailleurs les Malgaches vivant à l'étranger.
Mais en Suisse, alors à Lausanne par exemple, qu'est-ce qui caractérise cette unité des Malgaches ?
Souvenez-vous, en septembre, nous avons accueilli le responsable de la chorale Zarampi Filiana, une chorale malgache qui fait ses répétitions à Lausanne. Au-delà du chant, ces répétitions permettent aux Malgaches de Lausanne et de ses environs de se rassembler, d'entretenir des liens avec leurs racines et surtout de rester soudés.
Effectivement, c'est intéressant. Donc, vous parlez d'unité au plan culturel et identitaire, mais au plan historique et politique, qu'est-ce qu'il en est ?
Vous avez raison. À l'échelle politique, il en va autrement. Madagascar reste tout au long de son histoire déchirée par des divisions politiques nourries par des intérêts hégémoniques et économiques. Notre invité nous permettra de mieux comprendre ce phénomène.
Eh bien, on l'accueille justement. Bonsoir, Rana Ivo.
Bonsoir.
Bienvenue sur les ondes de Radio Django. Vous êtes arrivé en Suisse en 2001 comme étudiant. Vous êtes aujourd'hui chercheur au département d'informatique de l'Université de Genève. Et vous habitez Bienne.
J'habite Bienne, oui.
Voilà, toute la Suisse romande.
Oui.
Vous êtes d'origine malgache et vous avez aussi un penchant pour l'histoire, notamment celle du Madagascar. Alors, dans quelle mesure le fait d'avoir migré vous a rapproché de vos racines, de votre histoire ?
En fait, lorsque j'étais arrivé en Suisse, la première chose qui m'a frappé, c'est que les histoires qui sont de la Suisse et les histoires en Europe sont très bien documentées. ce qui n'est pas toujours le cas dans l'histoire de Madagascar. Et ce qu'on nous a appris à l'époque, c'était aussi une histoire qui était un petit peu, qui commençait aux années 1500. Donc, ce qui fait que d'où l'intérêt de mon côté de me passionner un petit peu plus sur l'histoire du peuplement de mon pays, on va dire. Ça m'a beaucoup intéressé.
Quel parallèle pouvez-vous tirer entre la diversité culturelle de Madagascar et celle de la Suisse ?
Ce que je trouve tout à fait intéressant en Suisse, c'est la coexistence de plusieurs communautés, d'une diversité qui arrivent à cohabiter ensemble dans une ville ou dans le pays lui-même. Donc ce parallèle, je peux le voir, par exemple, dans la capitale Antananarivo, la capitale de Madagascar, où là, il y a aussi cette diversité culturelle qui existe, où des populations de différentes régions peuvent coexister pour vivre ensemble au sein d'une même.
Mais qu'est-ce qui caractérise le peuplement de Madagascar si on remonte aux origines ?
Si on remonte aux origines, l'histoire raconte que le peuplement de Madagascar était effectué par des peuplements pour avoir une terre vierge. C'est un peuplement des Austronésiens, des peuples qui arrivaient d'Indonésie, des peuples qui arrivaient de la Micronésie, Malaisie, du sud-est asiatique. Et donc, ils étaient venus à Madagascar pour s'y installer. Ils ont amené bétail et des plantations aussi pour pouvoir coloniser l'île. Et les dates ne sont pas encore si précises, mais on dit que c'est vers les moins de 1000 ans avant Jésus-Christ que ces peuples-là se sont installés. Et il est clair aussi que d'après certaines analyses génétiques, il y a des peuples qui sont venus d'Afrique aussi, qui peuplent Madagascar actuellement. Ouais.
On parle de diversité du peuplement, mais il y a également une grande diversité religieuse lorsqu'en fait a été habitée la péninsule arabique.
Oui, en fait, dans les années 600, après Jésus-Christ, dans l'ère chrétienne, il y a eu des migrations de la péninsule arabo-persienne qui étaient venues là-bas, du côté est de l'île. Ils ont installé des comptoirs sur la côté est pour faire du commerce international à cette époque-là. Donc, ce qui fait que la religion musulmane reste encore, il y a des traces de la religion musulmane du côté ouest, il y a la grande ville Majenga où c'est vraiment à l'ouest qui est le centre de la religion musulmane, qui fait que après il y a l'arrivée des protestants vers 1810 qui, avec le royaume Mern, qui ont fait évoluer le royaume du centre et aussi implanté le christianisme à Madagascar.
Mais avant de parler du grand royaume Mern, oui, comment se sont formés les petits royaumes, les premiers petits royaumes ?
En fait, ces petits royaumes se sont formés à partir de clans et après qui ont formé des dynasties et ils se sont unifiés petit à petit pour former des royaumes. Je peux citer seulement ici 4 grands royaumes. Hein. Il se peut qu'il y ait plus, mais en tout cas, les historiens se mettent d'accord pour ces 4 grands royaumes-là. Il y a le royaume de l'Ouest, qui est le royaume Sakalav. Après, il y a le royaume de l'Est, qui est le royaume des Betsimsarak, hein, qui, l'histoire raconte aussi que c'était un descendant de l'union d'un pirate et d'un chef, Betsimsarak, qui a fait la création de ce royaume Betsimsarak-là, de l'Est. Après, le royaume du centre, les Betsileo, et le royaume Mirn, que vous avez évoqué tout à l'heure, qui est le royaume du centre, qui va après
se constituer en dynastie. Ouais. Mais qu'est-ce que la formation de ce royaume a changé dans l'organisation politique de Madagascar ?
Du royaume Mern, vous voulez dire ?
Absolument.
Donc en fait, le royaume Mern a commencé à se former à partir du XVIe siècle hein, et petit à petit s'est constitué en un royaume beaucoup plus grand. L'idée du roi de l'époque était d'unifier d'abord le centre et après, à cause de la nécessité et du contexte, on va dire, international de l'époque, il devait faire des commerces à l'extérieur. Donc, ce qui fait que ce roi-là a voulu étendre son territoire proche de la mer pour pouvoir aussi participer au commerce international. Donc, ce qui fait que c'est ça qui, on va dire, poussait le royaume Mern à s'élargir et à s'unifier et à faire des conquêtes vis-à-vis de ses voisins, les autres royaumes que j'ai cités tout à l'heure.
Mais on dit que ce royaume ressemblait déjà en fait à un État-nation.
Oui, parce que c'était le royaume qui a pu, jusqu'au XVIIIe siècle, avoir un territoire assez large. On parle de 4/5 de Madagascar. Et aussi, c'est le royaume qui a su, on va dire, être les plus proches des Européens, plutôt les Anglais, parce qu'à cet instant-là, il y avait les Français, les Hollandais, les Portugais qui voulaient s'installer à Madagascar, mais c'était plutôt les Anglais qui ont initialement, que le Royaume-Uni a choisi pour pouvoir réorganiser son État, réorganiser son armée et aussi avoir des éducations anglaises. On parle par exemple que la traduction, les mots malgaches étaient avant transcrits en arabe et à partir de l'hégémonie du Royaume-Uni, la langue malgache était transcrite en alphabet latin. Donc
Madagascar a toujours fait l'objet de nombreuses convoitises.
Bien sûr que oui.
Et à quand remontent les premières implantations européennes ?
Les premières implantations européennes datent des années 1500. Donc c'est Diego Diaz, le Portugais Diego Diaz, qui a découvert Madagascar. On parle que c'est lui qui a découvert Madagascar initialement. Et après, il y a eu l'implantation un siècle plus tard. Les Portugais étaient arrivés, donc qui ont chassé les Arabes de la côté ouest de Madagascar. Puis après, il y avait des convoitises des Hollandais, il y avait les convoitises aussi des Français et des Anglais. Et ce n'est pas encore tout à fait clair ce qui s'est passé au milieu, au XVIIIe siècle, mais en tout cas, ce qui est tout à fait clair, c'est que c'est plutôt les Anglais qui ont pu s'installer, puis les Français avec la colonisation.
Mais ouais, à la fin du XVIIIe, c'est donc l'épouse d'Adama qui a mis fin au règne anglais à Madagascar.
Bien sûr que oui. C'est elle qui a mis fin au règne anglais. Je pense plutôt par protectionnisme et non pas vu que même avec Adama I, le christianisme n'était pas encore autorisé. La pratique du christianisme, les baptêmes n'étaient pas encore autorisés pour les Malgaches. Et c'est la reine Ranavala Ier, qui est sa femme, son épouse qui l'a succédée, qui a accepté l'ouverture à la religion chrétienne. Mais 6 après, elle a stoppé la religion, je pense, par mesure de protection, contre les Anglais. Je pense qu'elle pensait que les Anglais allait avoir la main sur le pouvoir, sur l'État malgache.
Mais après le règne britannique sur Madagascar, sont arrivés les colons français.
Oui.
Et dans quelle mesure est-ce que le pouvoir colonial français donc, a tenté de diviser les Malgaches ?
En fait, le pouvoir colonial français a tenté de diviser les Malgaches, puisque ils étaient arrivés en 1895 à Madagascar, et la priorité de l'époque, c'était de limiter le pouvoir de la monarchie qui était en place. Donc limiter le pouvoir de la monarchie signifiait qu'il fallait instaurer une politique qui pouvait diviser les Malgaches pour pouvoir mieux régner dans les différentes autres régions. Il y a même des cartes qui ont été sorties de l'époque qui montraient bien les séparations administratives imposées par les colons français aux différentes tribus de Madagascar.
Madagascar, comme d'autres pays d'Afrique, ont connu justement cette délimitation géographique.
Voilà.
Parce qu'on expliquerait qu'il y avait 18 tribus, selon les ethnologues du 19e siècle, alors que c'est apparemment, je veux dire, une information tout à fait erronée.
Oui, c'était prévu pour être un outil utilisé par les colons pouvoir gérer le pays.
Dans quelle mesure est-ce que vous pensez que justement cette présence coloniale, finalement, aurait permis de renforcer l'unité des Malgaches ?
Je pense que l'unité des Malgaches, à mon avis, s'est plutôt forgée à partir d'un héritage socio-culturel que je vous ai dit tout à l'heure, lié à l'Austronésie. Donc, ce qui fait
l'Austronésie, merci de nous préciser en fait quelles sont les origines des Austronésiens.
Les Austronésiens sont plutôt les personnes originaires d'Indonésie, de la Malaisie, de la Micronésie, donc du sud-est.
Qui sont arrivés essentiellement par la mer.
Ce sont des grands navigateurs, en fait, qui sont arrivés par la mer.
Et aujourd'hui, donc, quand on regarde en fait Madagascar avec toutes ses influences, est-ce qu'on peut parler toujours d'unité culturelle, comme on a pu en fait le vérifier au cours de l'histoire, même si on sait qu'il y a des dissensions politiques ? Et qu'est-ce qui fait le ciment des Malgaches finalement, que ce soit à Madagascar ou ailleurs ?
Je pense que ce qui fait L'unité culturelle, je pense que ça reste dans le sens où on voit quand même dans les différentes régions du pays que les traditions restent. Par exemple, le respect des aînés, par exemple, ça reste. Le sacré.
Et la langue.
Et la langue aussi. Et aussi la frontière, parce que nous sommes une île. Donc, ce qui fait que c'est quand même c'est la frontière géographique qui délimite assez souvent aussi qu'il y a une unicité, quelquefois, de culture qui reste et des héritages socioculturels qui restent.
Effectivement, une île avec des frontières naturelles. Merci beaucoup, Rana Ivo.
Merci à vous.
D'être venu parler de l'histoire de votre pays pour ce voyage historique. Et on rappelle que l'histoire du Madagascar se caractérise par une succession de clivages politiques. Mais l'unité culturelle reste un ciment du peuple malgache. On le constate aussi bien à Lausanne qu'à travers le monde. Et on vous propose tout de suite une chanson, Tongavare, qui se traduit par Venez, venez. Et puis cette chanson a une signification spéciale. Hein.
Oui, c'est une chanson qui motive en fait les habitants dans les villes de venir dans les petits villages pour enlever tout le stress, pour être plus proche et pour conserver cette unité malgache là.
Eh bien, c'est parfait pour nous à 18h40. On va écouter cette chanson. Venez, venez. Merci beaucoup, Rana Ivo. Et merci à Daniel pour la préparation de ce sujet.
Tungavare, tungavare, tungava mamangan, tanana misenai, tungava zam sala salawa, tungava manara kanyarabe, zem tunda makani. Tungavare, tungavare, tungava mamangan, tanana misenai, tungava zam sala salawa, tungava manara kanyarabe, zem tunda makani. Watin no da ularo sur suri. Sur sur mandera kanawa dino da ular tip tipi tip tip mandera kanawa fansa vata miandena wane tela nuna na la nuna na miara kamde wakama zayane tanana fansa vata miandena wane tela nuna na la nuna na miara kamde wakama zayane tanana skuba kamba vistir zala. Bakambava tu in kabar, skubakambavan tada tada inava, ira irando band keli, zeptent kabosi. Skubakambavistir zala, skubakambava tu in kabar, skubakambavan tada tada inava, ira irando band keli, zeptent kabosi. Mana kuwaku da ulu reulu asama laza mangina. Mana kuwaku da ulu ni ambalant reiman tuloa. Atambola na itot zania, tena marna wa feuna kabosi si marakasia, tema vitan zania. Atambola na itot zania, tena marna wa feuna kabosi si marakasia, tema vitan zania. Tin tamba tambaz na nan terina fatunga da ulun tawatanan, miaram retun rau ira ira. Ira ira ton pant keli, ira ira fugatan tani.
Quelques notes de musique malgache pour nous accompagner en cette soirée avec le rendez-vous historique, c'était avec les Malgaches il y a quelques instants.
Radio Django, culture.
Et à 18h42, nous voici arrivés à l'agenda culturel cette semaine présenté par Fabio. Bonjour.
Bonjour, cher Fabien.
Alors, tu disais dans le sommaire que l'agenda de cette semaine était un peu cochon.
Nous sommes à la veille du 11 novembre. Tu sais, Fabien, à quoi correspond cette date ?
Alors, dans mon agenda, on mentionne souvent l'armistice, la fin de la Première Guerre mondiale. Ouais. Bon, on sait que cette cochonnerie de guerre était... Bon,
ouais, c'est pas vraiment ce cochon-là. Mais oui, t'as raison, c'était une cochonnerie, c'est toujours une cochonnerie de guerre. Mais le 11 novembre, c'est aussi la Saint-Martin.
Ah !
Et voilà. Oui. La fête de la table qui célèbre la fin des travaux dans les champs. Une sale période pour les cochons, puisqu'on fête Saint-Martin par des repas gargantuesques avec de nombreux plats, essentiellement à base de cochons.
Oui, et donc ça a à voir avec l'agenda culturel, Fabio ?
Ben oui, la culture, elle nous nourrit, c'est certain, par les films, les livres, la musique, etc. Mais la nourriture alimentaire, je veux dire, celle qui passe par la bouche et les entrailles, eh bien, elle fait aussi partie de la culture. Donc, je ne pouvais pas ne pas mentionner cet acte culturel qu'est la fête de Saint-Martin. Bon, il faut dire qu'elle est plutôt connue et reconnue dans le Jura, mais la foire de Saint-Martin, la plus proche de Lausanne, s'est déroulée à Vevey aujourd'hui même. elle est finie à 18h, donc inutile d'y aller. Cette tradition veuvisane, présente depuis le Moyen-Âge, était celle du partage et de la solidarité, mais aussi celle des bonnes affaires et des retrouvailles entre travailleurs de la terre, ceux de la plaine et de la montagne et de la vigne. Une sorte de libéralo-radicalisme à la vaudoise, n'entends quoi? Tu vois ?
Ouais, je vois bien, ouais.
Voilà. À Vevey, c'est donc déjà fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez partir vous encanailler dans le Jura ce week-end ou la semaine prochaine pour le Revira. C'est une toute grande fête qui vous attend. Prenez le train et dormez sur place. Croyez-moi, cela vaut mieux.
Ouais, pour la faire travailler la ratince, ça va digérer. Bon, merci pour ce rappel de ce qu'est cette tradition culturelle de la Saint-Martin. Revenons à ton agenda, si tu le veux bien. Qu'est-ce qu'il y a au menu?
Alors d'abord la gelée de ménage, suivi du boudin à la crème, les attraits...
Non, Fabio, je pensais au menu culturel de la
chambre. Oh là là, qu'est-ce que tu peux être terre à terre, Fabio.
Je sais, je suis pas drôle.
Bon, comme on a déjà parlé, comme on va parler de cinéma sala, je continue quand même dans le monde du cinéma, plutôt du côté de l'Amérique latine avec la 17e édition du festival Filmar en Amérique latine. Le plus important festival en Suisse de films entièrement consacrés aux cinématographies et à la culture latino-américaine. Filmar privilégie le cinéma indépendant, les films d'auteur. Il propose à la fois des films nouveaux et des grands classiques et diffuse des films traitant de thématiques sociales, politiques, culturelles et environnementales actuelles et de première importance. Filmar se déploie carrément dans toute la Romandie avec son centre névralgique à Genève, comme depuis le départ il y a 16 ans, 17 ans. Mm-hmm. Dans la région lausannoise, des projections sont prévues au City Club de Puy, au Cinéma Bellevaux, à l'Espace 44 dans le quartier des Bergères ou encore ici à Pôle Sud. On ne peut pas présenter toute la programmation, bien sûr, elle est extrêmement touffue et large. Et on va juste dire que vendredi 13, qui correspond au premier jour du festival, on peut insister...
Vendredi 13.
Eh oui. On peut assister à la projection du long métrage Ella ou la Vacilla, la classe vide, une œuvre collective réunissant plusieurs réalisateurs latino-américains qui, chacun à leur façon, traitent le sujet de la désertion scolaire dans différents pays. Et on peut y découvrir notamment Gael García Bernal en tant que réalisateur. Bernal, je ne sais pas si tu l'avais vu ce film,
l'acteur
mexicain qui a entre autres interprété le Che dans Carnet de voyage.
Donc tout le programme de cette 17e édition de Filmar en América Latina qui se déploie dans plusieurs villes de Romandie du 13 au 29 novembre. Toutes les infos sur www.filmaramlat.ch. Bon, c'est délicat. On reste encore dans le domaine du cinéma avec une incursion chez nos amis du City Club depuis, bien sûr.
Oui, pour du cinéma, mais aussi pour de la musique avec Ursula Meyer et Stéphanie Blanchou. La première est cinéaste, qui a réalisé entre autres Home ou encore L'Enfant d'en haut. Mmh. Et la deuxième est une artiste belgo-suisse qui sort un nouvel album, ce mois-ci qui s'appelle Les Beaux Jours. Cela se passe ce samedi 14 novembre à 19h30.
Oui, mais là, on attendait plutôt un extrait de Stéphanie Blanchou, puisqu'on en parle. Ce sera ce samedi, le 14 novembre à 19h30.
Donnez-moi votre main et ne parlons pas trop. Vous me comprendrez bien sans avoir dit un mot. Je manque de chaleur. Offrez-vous en douceur, trop plein de solitude pour aimer l'habitude.
Voilà un extrait de Comme un trésor de Stéphanie Blanchou, Fabio.
Blanchou, une musicienne Blanchou. Que la cinéaste Ursula Meyer aime particulièrement. Le City Puy donne carte blanche à Ursula pour présenter son dernier travail de 2005, Casse Mote Klein, naissance d'un acteur, qui est un court-métrage documentaire suivi du concert de Stéphanie qu'on vient d'entendre, pour qui la réalisatrice a accepté pour la première fois de sa carrière de réaliser un clip.
Tout ça, c'est donc le samedi 14 novembre au City Club de Puy. L'ouverture des portes est à 18h30, 19h30, projection et discussion avec Ursula Meyer et l'acteur Cassie Mote Klein. Le concert est à 21h. Et puis, on écoute un extrait.
Des veaux, des vaches, des boutons, du chamois, du brochet, du cygne. Des lacs, des vergers, des forêts, même un glacier, au diablerait, du tabac, du blé, de la vigne. Mais jaloux, bon genevois, m'a dit d'un petit air narquois, permettez qu'on vous interroge. Où sont vos fleuves, franchement?
Oh, cette belle vieille Venoge, poème écrit par Gilles, Jean Villard-Gilles, en 1954 déjà. Ouais. Et pourquoi ce retour dans les années 50, Fabio ?
C'est un petit clin d'œil et un son d'introduction pour parler de « Il n'y en a point comme nous », une exposition que le musée romain de Vidi consacre au patrimoine vaudois. Dans d'autres textes, Gilles, qu'on vient d'entendre, dépeignait les Vaudois comme des épicuriens inquiets. Donc, tu vois, c'est lié encore à la Saint-Martin, quoi. Ouais. Des épicuriens inquiets, quoique nonchalants, bien pensants mais tolérants, modestes et malicieux, indécis sauf pour trois décis, des tout bons types en somme. Mais un bon demi-siècle après, en 2015, existe-t-il réellement une identité, une culture, une mentalité vaudoise? Et si oui, comment les définir? En tradition et globalisation, histoire et terroir, paysage et langage, accent et sarment, poète et topette, pâté et papé, liberté et patrie, qu'est-ce qui aujourd'hui dessine la vaudoisitude? Voilà que ce qui soulève une épée clé de questions. Le musée romain de Lausanne-Vidy consacre donc une exposition maison, plus ethnographique qu'archéologique, à la culture et à l'esprit vaudois.
Ouais, ni pour ni contre, bien au contraire.
Exactement.
Il y en a point comme nous, jusqu'au 14 février 2016, au musée romain de Vidy. On peut retrouver des informations sur le site de la ville de Lausanne, www.lausanne.ch. Merci beaucoup Fabio pour cet agenda un peu cochon, et comme d'habitude, partiel et partisan, mais qui donne somme toute envie de sortir de chez soi pour se cultiver. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Radio Django, 18-19h.
On en a dit deux mots à l'instant dans l'agenda. Aujourd'hui, nous partons sur la route de l'Inde, Jean-Luc.
Oui, après avoir découvert les vaudoiseries, ben on va partir un peu plus loin, puisque c'est une émission interculturelle que Django. Oui. Alors, en effet, Cinéma Sala organise du 11 au 14 novembre quatre soirées dédiées à des films traitant de la vie sur les routes de l'Inde. Cet événement est mis sur pied par la section de langues et civilisations slaves de l'Asie du Sud, avec le soutien de l'association culturelle La Route du Chai et le Centre socioculturel de Pôle Sud.
Ah ben ça tombe bien, on y est. Alors pour en parler, nous accueillons Noémie Verdon. Bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue sur les ondes de Radio Django. Vous êtes doctorante dans la section de l'Asie du Sud et l'une des responsables de l'organisation de cette manifestation.
L'initiative Cinéma Sala a été prise par des étudiants d'université. Racontez-nous l'origine de cet événement et le contexte dans lequel il a surgi.
Oui, volontiers. Alors, tout a commencé en 2013. On était trois jeunes filles, dont Fanny Meyer, qui travaillait pour l'association Norla à l'époque, et qui voulait en fait associer, faire un événement avec l'association Norla en combinaison avec notre institut de langue et civilisation de l'Asie du Sud. Et en parallèle, une collègue à moi et moi-même, Nadia Catoni, on voulait trouver un moyen de communiquer notre domaine de recherche dans un public plus large. Et en discutant de cela, en fait, simplement nous est venue l'idée de faire un festival de films qui est un bon moyen, à notre avis, pour partager.
Comment ça a été accepté par justement les docteurs, hein, je veux dire, le milieu de l'université, c'est intéressant que tu essayes de sortir, mais comment ça a été pris?
Alors, tout le monde nous a bien encouragé de le faire. On a été soutenus dans le sens où les gens sont venus. Les professeurs, les étudiants, les collègues sont venus depuis 2013-2014 à chaque édition. Et puis, en 2013, on a eu un grand intérêt de la part du public. On a été même assez surpris que ça marche aussi bien. C'était une bonne surprise. On espère que ça continue.
Au-delà de ce dialogue entre le public et les spécialistes du domaine, est-ce que vous avez d'autres objectifs lorsque vous organisez une telle action?
Comme j'ai déjà dit, c'est de faire découvrir un petit peu notre passion. Peut-être aussi de... Nous, on part du principe de ne pas trop montrer des films trop clichés. Donc aussi d'aller dans un autre sens que ce qu'on imagine peut-être a priori sur l'Inde. À partir des chemins battus, donc une programmation de films que les gens n'auront pas forcément l'occasion de voir autrement.
Et pourquoi Cinéma Sala?
Cinéma Sala, alors c'était un grand débat parmi l'équipe des gens qui travaillent pour ce festival. Donc en 2013-2014, le festival s'appelait Film Slasia. Et puis finalement, on a trouvé que ce nom n'était pas très sexy. Et Cinema Sala, en fait, ça représente bien Masala. On pense assez vite à l'Inde. Et on voulait, dans le titre aussi, qu'on comprenne que ça parle de film.
Oui, alors le festival, il est itinérant. Hein. C'est aussi une volonté de sortir vraiment de l'université.
Mm-hmm. Alors effectivement, si on veut créer un lien entre la vie de l'université et la cité, ça faisait pas de sens de rester dans l'université, dans le campus. Par contre, on garde toujours une soirée quand même dans le campus. Et puis sinon, on a toujours changé un petit peu de salle. Effectivement, ça nous permet aussi de toucher des publics différents. On est allé au cinéma, au Blo, City Club, cette année à Pôle Sud aussi, et à la Riponne.
En fait, justement, ce programme, il est très très riche. Plusieurs films, des intervenants, des contes. Quels en sont les points forts et pourquoi le choix de ce thème là, cette année? C'est un thème assez particulier sur les routes, très intéressant, mais tous les films sont centrés en fait sur cette thématique.
Oui, alors c'était notre désir hein, dès le départ d'avoir un thème, un fil rouge en fait, qui nous permette... ça nous permet aussi de... Après chaque film, on a une discussion, enfin pas toujours, mais il y a souvent des intervenants. Et puis on peut regrouper les gens qui viennent voir plusieurs des projections, ils peuvent faire des liens entre les différents films. Et les discussions se trouvent aussi assez intéressantes par ce fait.
Et comment vous choisissez les intervenants?
Alors les intervenants, c'est selon les films, hein, souvent.
Alors, vous avez panaché le programme entre documentaire, film, poétique et d'action. Comment s'est fait le choix des films?
Alors,
c'est un gros travail toujours.
C'est un gros travail, effectivement. On essaye toujours un peu la variété dans la même idée que l'itinérance, en fait, d'avoir différentes représentations sur un thème, d'avoir des documentaires, d'avoir des films qui seront plutôt un peu psychologiques comme Highway ou poétiques comme Road Movie. Et on a aussi donc le documentaire Millions Can Walk, très intéressant, qui touche une thématique un petit peu étrange pour nous. C'est une marche protestataire, en fait, de milliers d'Indiens. Et puis le dernier film comique, donc c'est toujours cette idée de variété.
Et il y aura le réalisateur du film Million Wall qui sera ici. Quelques mots sur le réalisateur, si vous le connaissez.
Alors, je vais plutôt faire parce que j'ai, par rapport aux points forts, en fait, je pense qu'il y en a deux qui me viennent en tête. C'est justement ce soir-là, on a la chance d'avoir Christopher Schaub, qui est l'un des réalisateurs suisses, donc de Millions Can Walk. Et puis vous avez parlé aussi de demain soir c'est le Diwali aussi indien, donc on a notre festival qui tombe durant ce festival des Lumières indiens, donc je dirais que ça c'est les deux points forts. Et puis on a aussi la chance d'avoir Claude Belligotti qui expose ses photos le vendredi et le samedi à Pôle Sud.
C'est des très belles toiles.
Qui sont des très très belles photos, très touchantes.
Oui, alors en fait, moi j'avais juste une question qui est un petit peu à l'extérieur, mais c'est en tant qu'étudiant, en tant que doctorant, vous allez souvent en Inde, parce que c'est des études quand même assez particulières, bon, il y a l'histoire de sanskrit, ces études ont évolué, comment ça se déroule un peu cette vie d'étudiant et doctorant?
Effectivement, les voyages en Inde sont encouragés, que ce soit pour apprendre le hindi, parce que dans notre section il y a du sanskrit, mais il y a du hindi et du urdu qui est enseigné. Donc il y a des voyages organisés avec plusieurs étudiants chaque année. Il y a des voyages linguistiques qui sont encouragés. Moi-même, personnellement, c'était plutôt pour des conférences ou des contacts avec des gens. Il y a des gens qui peuvent aller faire des recherches sur des manuscrits aussi en Inde.
Oui, l'histoire de placer comme un petit peu le contexte puisque vous étudiez le domaine. Voilà, on vous rappelle que le ciné Masala se déroule donc du 11 au 14 novembre dans différents lieux. Le film Highway sera projeté au Palais de Rumin le 11 novembre, c'est demain à 19h. Le 12 novembre, ce sera Road Movies sur le campus de l'UNIL à la salle Unitech 4-215. Et les 13 et 14 novembre, les films Millions Can Walk et Finding Fanny seront projetés au Centre socioculturel de Pôle Sud. Sans oublier les contes et les possibilités de se restaurer. Merci beaucoup Noémie Verdon d'être venue nous parler de Cinema Sala ce soir.
Ah, merci à vous.
Et puis merci à toi Jean-Luc pour la préparation de ce sujet. Sujet à retrouver en podcast sur notre site django.fm. On a parlé ce soir de la thématique de ce mois de novembre avec la transidentité ce soir et nous recevions Yannick Fornet qui nous offrait son témoignage. Nous avons également parlé de l'histoire du Madagascar, de la Suisse vue par les Suisses dans Parle-moi Suisse et des idées de sortie avec Fabio, un agenda un petit peu cochon hein, puisque c'est la Saint-Martin. Et puis nous avons parlé à l'instant du cinéma Sala. Tous les sujets sont à retrouver en podcast sur notre site www.django.fm. Et je vous rappelle que mardi prochain, ce sera le 17 novembre, juste après le grand direct de Radio Django, nous vous offrons une heure d'émission qui vous sera offerte et même intitulée Horizon Chine, une heure consacrée à la Chine. Nous allons découvrir la richesse et la diversité culturelle de Lausanne à travers la communauté chinoise. Le mardi suivant, ce sera le 24 novembre, aussi après le grand direct, une heure avec la Fedevaco, une heure d'émission autour du développement de la coopération pour le marché de Noël. Gardez bien donc ces deux dates en tête, le 17 et le 24 novembre, juste après votre rendez-vous hebdomadaire du mardi soir, des émissions en direct et en public de Pôle Sud. On vous y attend nombreux également pour l'occasion et pour boire un verre. Je vous donne rendez-vous également la semaine prochaine sur le coup des 18h pour une nouvelle édition du grand direct de Radio Django. Nous continuerons avec notre question LGBT et nous parlerons de bisexualité. Nous parlerons également du festival Régional Rock, ce sera pas dans la thématique. Et dans la culture, bien sûr, le programme est à suivre sur django.fm et sur Facebook. Pour écouter cette émission, rendez-vous samedi à 11h et dimanche à 13h. Je vous souhaite une très belle soirée à l'écoute de Radio Django. Il est tout précisément 19h.